Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Nous revenons ce matin sur l'affaire Julien Lacroix, 2 ans plus tard. Il faut se rappeler que l'humoriste, qui était au sommet à ce moment-là, a fait l'objet d'une enquête dans le journal Le Devoir, où 9 jeunes femmes ont fait des témoignages, parfois à visage découvert, parfois dans l'anonymat, pour dénoncer les agressions et les inconduites sexuelles de Julien Lacroix. Par la suite, le verdict a été clair, sans appel. Il a tout perdu. Et depuis ce temps, donc, il vit en marge, si on veut, de l'industrie du spectacle. Et vous allez tantôt l'entendre nous parler des impacts donc qu'il a subis. 2 journalistes sont avec nous ce matin pour nous parler de ces jeunes femmes qui, avec 2 ans de recul, ont un regard différent sur ce qui s'est passé. Je vous les présente, notre collègue Marie-Ève Tremblay, qui est journaliste ici dans l'émission de Luc Ferrandez. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Paul.
Et Isabelle Haché de La Presse. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Ève, je commence avec toi. Donc, des jeunes femmes qui, à l'époque, ont fait des témoignages et qui, aujourd'hui, disent « Attention, c'est peut-être aller trop loin.
Mm-hmm. » Cette histoire-là, pour qu'on sorte ça aujourd'hui, c'est vraiment parti d'un message publié sur les réseaux sociaux de Geneviève Morin. Geneviève Morin, c'est l'ex-blonde de Julien Lacroix. Puis, dans la dénonciation, il y a 2 ans, c'était vraiment elle qui était centrale. Son témoignage à elle était central dans la dénonciation. On pouvait lire qu'il l'avait agressée sexuellement. Et puis, ça frappait vraiment l'imaginaire de lire son témoignage. Et puis, au début du mois d'octobre, elle en a pris plusieurs par surprise en publiant un long message sur Instagram dans lequel elle disait, en gros, avoir des regrets par rapport à toute cette histoire-là. Elle dit qu'elle a senti qu'elle a été instrumentalisée en général par les médias et qu'elle en ressort plus fragilisée. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh wow, tu sais, 2 ans plus tard, avec le recul, elle a une vision différente de toute cette histoire-là. Donc, ça m'a donné envie de creuser un peu plus, d'aller plus loin pour voir, tu sais,
est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, puis une.
On va écouter quelques extraits du balado, donc des extraits de témoignages de ces jeunes femmes qui font une réflexion un peu différente aujourd'hui.
J'essayais de me dire, je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un. Tu sais, je suis 1 sur 9, là. Je ne veux plus être dans les 9. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les 9 personnes.
J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais des clics.
Après ça, avec du recul, je me questionne, est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus.
T'sais, quand j'ai lu le titre, là, comme le 9, puis là, on dirait qu'après ça, tu lis l'article, puis j'étais comme... Vraiment, là, je suis tombée, là. T'sais, mes jambes m'ont lâché. Je me souviens que... Est-ce que la personne avec qui je suis, c'est un monstre?
Isabelle Haché, comment ces jeunes femmes-là étaient des victimes il y a 2 ans? Puis comment aujourd'hui elles disent, ben finalement, je suis pas une victime?
Je pense qu'il y en a qui, dès le départ, avaient dit qu'ils n'étaient pas des victimes puis qui se sont retrouvées quand même là-dedans. Je pense qu'il y en a aussi qui ont évolué. Au bout de 2 ans, elles ont vu tous les impacts négatifs que ça a eu, draconien en fait, que ça a eu sur Julien Lacroix, puis ils se sont dit, ils ont regretté en fait, ils ont regretté tout l'impact qui était dévastateur pour Julien Lacroix, alors qu'elles considéraient que leur témoignage était peut-être plus anecdotique. On en a une en particulier qui nous dit que dès le départ, son témoignage était vraiment... Elle était même gênée. Elle a témoigné de façon anonyme parce qu'elle avait trop honte de son témoignage. Elle trouvait que son témoignage était trop anecdotique, était trop banal, insignifiant. Donc, elle a dit, je ne veux pas mettre mon nom là-dessus.
Mais elle a été incluse.
Elle a été incluse quand même parce qu'elle a quand même donné son témoignage. Donc, ce qui s'est passé, c'est sur le coin de la rue à 3 heures du matin, en venant du travail, elle a rencontré Julien Lacroix qu'elle connaissait. Il lui a demandé un peu à la blague, ben pas à la blague, mais en fait, sur un ton assez badin, viens-tu chez nous, viens-tu chez nous. Il a insisté un peu, il a donné un bec sur la bouche. Elle a dit non, 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 mon chum m'attend chez nous. Mais elle lui a avoué 3 ans plus tard que si elle avait pas eu de chum, elle serait allée chez lui. Donc, tout son langage corporelle, ce qu'elle nous disait, c'est que oui, elle avait envie d'aller chez lui, mais elle n'est pas allée parce que c'était une bonne blonde. Donc, son témoignage est assez frappant parce qu'elle nous dit que finalement, avec le recul, elle n'aurait jamais dû faire ça. Mais elle a été emportée dans une espèce de tourbillon.
Bon, je pense que c'est le point sur lequel il faut insister, là. C'est-à-dire qu'on a des jeunes femmes qui, en tout cas en écoutant le balado, lisant le document, ont eu la pression des pères, c'est-à-dire choisis ton camp. Si tu parles pas, t'es du bord des agresseurs. Même si c'est anodin, ça vient ajouter à une rumeur qui va devenir un fait. C'est peut-être pas grand-chose, mais d'autres ont vécu pire avec Julien Lacroix. La pression venait d'un milieu autour d'elle, non?
Oui, c'est vraiment ce qui ressort, je dirais même dans la plupart de nos entrevues, peu importe où les personnes qui ont commenté se situent là, dans toute cette histoire-là, c'est qu'il y avait une forme de pression, surtout à l'été 2020 ou dans le milieu, de dire si tu as vécu une expérience, peu importe quelle expérience c'est, collectivement d'en parler, fais en sorte que tu aides le mouvement, que tu es une alliée du mouvement. Si tu as vécu quelque chose, comme par exemple l'anecdote que Isabelle vient de raconter, puis que tu n'en parles pas, ben là, c'est comme si tu étais perçue comme complice des agresseurs. Alors, c'est comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, s'il y avait une pression de ne pas se taire d'une certaine manière. Puis vraiment, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on a compris, Isabelle et moi, au fur et à mesure qu'on a fait des entrevues. Moi, ce qui m'a frappée, il y a une femme là-dedans qui revient tout le temps, elle s'appelle Audrey-Anne Dugas. Audrey-Anne Dugas ne fait pas partie des victimes, mais dans aucun article, j'étais comme, c'est qui cette fille-là? Pour finalement comprendre qu'elle avait parti un mouvement qui s'appelait Pour les prochaines, pour dénoncer des comportements dans le milieu de l'humour. Ben elle avait comme un combat, c'est-à-dire rendre justice, faire le ménage des agresseurs et tout ça. Donc, elle a été impliquée dans le sens où elle a entendu des témoignages, elle en a recueilli, elle a mis des gens en contact. Puis ça, c'est fou quand on comprend comment ça a fonctionné, en fait, derrière. Mmh.
Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle-même, finalement, à l'été 2020, elle a été dénoncée elle-même. Elle s'est retrouvée sur la fameuse liste « Dis son nom » sur Internet. Puis à ce moment-là, toutes ses alliées l'ont coupé les ponts. Elle a cessé de collaborer avec Le Devoir. Et puis, elle s'est retrouvée là, un peu dans la même situation que Julien Lacroix, ce qui est quand même assez ironique.
Puis si on l'entend dans son témoignage, c'est intéressant parce qu'elle l'a vécu des deux côtés. Alors, elle parle aussi de quel effet ça a eu sur sa vie à elle aussi d'être dénoncée comme ça. Elle, son nom a été écrit sur une liste. Elle n'a jamais su vraiment qui avait parlé et tout. Donc, elle a eu des menaces.
Elle a eu le même traitement, là.
Oh oui, le même traitement. Puis elle en parle. Puis son regard, 2 ans plus tard, est super intéressant par rapport à
ça. On va revenir à Geneviève parce que c'est vraiment son témoignage qui s'est retrouvé au cœur de l'enquête, là, puis au cœur de la présentation des faits. Donc, elle a été la conjointe pendant 6 ans de Julien Lacroix.
Non. Avec le recul, je ne le referai pas. Mais avec le recul, là, je parle de Geneviève 2022 qui connaît la justice réparatrice, puis qui a goûté et qui a... C'est ça, la vraie solution. C'est de s'asseoir puis réparer, là. Puis j'ai pas l'impression aujourd'hui que la conversation a fait avancer les choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une conversation sur les dénonciations qui a été faite. J'ai l'impression qu'il y a un constat social qui est fait. On les déteste, on les haït, on les cancelle. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie justice réparatrice dans la société.
On va mettre quelque chose au clair. Julien Lacroix n'est pas un saint homme, là. Julien Lacroix, là, si on résume, c'est une jeune star de l'humour qui a consommé de l'alcool, de la drogue, qui a eu des comportements qui n'ont pas d'allure, qui a été un trou de cul, là, on va se le dire franchement. Là.
Oui, puis je pense que là, c'est le bon moment pour dire que Isabelle et moi, on ne s'est pas lancé là-dedans dans l'idée de dire s'il devrait revenir ou pas là, dans l'espace public. On ne le fait pas non plus pour dire s'il a posé ou pas les gestes qui lui sont reprochés. Là. C'est vraiment pas ça. Mais ce qu'on comprend, c'est que Julien Lacroix, là, il s'en allait droit dans un mur. C'est juste qu'il pensait pas que c'était ce mur-là qui allait frapper, parce qu'il y avait de réels problèmes de consommation. Puis ça, on le comprend. Puis ça a apporté beaucoup de problèmes dans sa vie.
quand j'écoutais le balado hier, je me disais, au terme de ça, sur les 9, il y en a combien de vraies victimes là, qui, tu sais, parce que tu dis là, OK, ben, moi je suis pas une victime, moi je suis pas une victime. Il y en a combien sur les 9?
Ça, c'est une très bonne question. Puis je pense pas que nous, on peut répondre à ça. Évidemment, une agression sexuelle, moi, si quelqu'un me met la main au derrière, selon la loi, c'est considéré comme une agression sexuelle. Donc, je pense que les gens... Puis moi, je peux le prendre autrement. Donc, ça fait partie vraiment des femmes elles-mêmes. Si elles considèrent qu'elles ont été victimes, c'est difficile de remettre leurs paroles en doute. Puis nous-mêmes, on n'est pas là pour remettre leurs paroles en doute. Là. C'est pas ça qu'on voulait faire dans ce reportage-là. Il y en a combien? Je veux dire, le consentement aussi, ça, c'est toute une histoire. Sur les 9... Bien, on peut les mettre en catégorie, là, les 9 de l'enquête du devoir. Il y en a 5 que c'est des inconduites dans des bars ou sur le coin de la rue. Il a essayé d'embrasser des filles. C'est des filles qu'il connaissait en général. Bien, toutes les... non, pas toutes, mais en tout cas, c'est ce qu'il faisait dans les bars. Sinon, il y a Geneviève Lacroix, Geneviève Morin, qui était son ex-conjointe. Mmh. Puis il y en a 3 que c'est des filles où ça s'est passé à l'époque du secondaire. Donc, Julien Lacroix était mineur à cette époque-là. Les filles aussi étaient mineures. Ils étaient en secondaire 4, secondaire 5. Puis on parle de consentement qui n'a pas été respecté, mais on savait pas vraiment c'était quoi le consentement à cette époque-là. Donc, tu sais, Julien Lacroix, lui, en fait, ce qu'il plaide, c'est que moi non plus, je savais pas. Les filles nous disent... Ben, la fille qu'on a interviewée nous dit, ben, moi, j'étais pas sûre, je savais pas que c'était une agression à cette époque-là. Je l'ai compris beaucoup plus tard, à l'université et tout ça. Donc, Julien Lacroix, lui, ce qu'il dit, ben, c'est que lui non plus, il savait pas qu'il avait dépassé le consentement. Là, après ça, nous, on n'était pas là, on n'était pas...
Mais il y a un témoignage, hein, c'est l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui disait à un moment donné, il a levé ma jupe et tout ça. Ah, et oui. L'agent des deux, là, qui est la même personne qui représente Julien Lacroix puis Rosalie Vaillancourt, précise, elle vous a pas dit que quelques minutes avant, elle lui a pris le pénis, puis lui, après ça, il a levé à jeu, puis ça avait l'air d'un jeu entre les deux.
Oui, oui. C'est un jeu qui durait depuis longtemps, ce qu'elle nous a dit, c'est que c'était comme qui allait pousser la vulgarité un peu le plus loin. C'était deux humoristes qui étaient un peu là-dedans, dans ce genre d'humour-là. Donc, eux, il y avait ce jeu-là entre eux depuis plusieurs années. Là. Donc, c'est... je sais pas, moi, Rosalie Vaillancourt prend les mains de Julien Lacroix, les met sur ses seins, puis crie « Au viol, au viol! » Puis c'est drôle. C'est des blagues comme ça qu'il faisait. Donc, c'est sûr que avec le contexte...
C'est ça, le contexte.
Le contexte, c'est tellement important. Puis dans l'enquête du devoir, il n'y en a pas de contexte. Zéro contexte. On ne sait pas ce qui est arrivé avant, on ne sait pas ce qui est arrivé après, on ne sait pas ce qui... la relation que Geneviève Morin avait avec Julien Lacroix, tout ça. Je comprends qu'une agression sexuelle, ça n'a pas besoin de contexte, là. Mais dans certains cas, je pense qu'il fallait du contexte.
On est dans les grandes nuances. Ouais. Là.
Puis Rosalie Vaillancourt le dit dès le début hein, qu'elle n'était pas victime, mais elle est quand même comptabilisée dans les 9. Est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle a accepté de parler parce qu'elle entendait des choses, puis ben pour appuyer tout ça, elle est allée de l'avant, mais elle dit qu'elle n'a pas été traumatisée par ça. Mais elle se retrouve tout de même dans les 9.
On va écouter Julien Lacroix, là, parce que depuis 2 ans, la vie a changé pas mal.
J'ai demandé de faire du bénévolat à 3 places, ils m'ont dit non. J'ai demandé de faire des ateliers, ils m'ont dit non. Je peux même. Il y a personne qui veut me faire écrire, il y a personne qui veut me faire travailler, autant dans le milieu qu'ailleurs. Là, j'ai envoyé. Il y a personne nulle part. Fait que c'est pas fini. J'ai l'impression que c'est peut-être le temps, mais que c'est pire en pire. Parce qu'au début, le monde était comme, hey, ça va se placer, blablabla. Puis là, c'est même plus ça va se placer, c'est juste silence radio. Là. Il y a rien qui. Fait que. Je me tuerai pas parce que j'ai un bébé, puis une chance qui est là. Mais chaque jour, je me dis, tabarnak, ça. Tu sais, la vie, tu te mets des objectifs, tu vas avancer. Je suis comme, mais je veux pas rester chez moi tout le temps, là.
C'est sûr que les auditeurs ont comme question en tête, OK, il est pas parfait, on l'a dit, là, puis il a probablement posé des gestes là, qui sont dénonçables. Mais la sentence dure combien de temps?
Ben, comme c'est une sentence populaire, on ne le sait pas. Mais à écouter Julien Lacroix parler, il n'y en a pas de fin. Au début, il croyait que ça allait finir par se placer, mais c'est intéressant quand il dit, j'ai l'impression que plus on avance, plus ça empire. Moins je vois une lumière au bout. Donc, c'est la grande question, puis c'est ce que les filles soulèvent aussi. Est-ce que c'est mieux d'aller en prison? Je pense que Julien, parce que t'es accompagné, t'as des services, tu peux te réhabiliter, mais lui, il est vraiment seul, sans aide, à la maison, à regarder le plafond. Dès qu'il lève le petit doigt, il y a une réaction. Donc, il a pas l'air d'avoir de fin à ce genre de peine populaire-là.
Mm-hmm. Isabelle?
Ben, c'est un peu ce que... Il y a plusieurs filles, c'est vrai, qui nous ont parlé de ça, qui nous disaient, finalement, s'il y avait eu une sentence, là, avec un début puis une fin, je pense que les gens seraient moins en colère contre lui, puis les gens, je veux dire, les internautes, parce que c'est la meute aussi sur Internet. Là, on vit dans ce monde-là maintenant, mais c'est parce que c'est super violent ce qu'il reçoit sur Internet. À chaque fois qu'il essaie
de... C'est incroyable que des gens qui dénoncent un agresseur potentiel, donc violent, tombe dans la violence, dans le propos puis dans la menace.
Mais c'est beaucoup le regret qu'avait Geneviève Morin, qui a quand même été 6 ans avec lui, puis qui a vécu une relation quand même intense avec lui. Puis elle disait, moi, j'ai dénoncé quelque chose, j'ai dénoncé la violence, puis on répond par la violence, c'est pas ça que je veux, puis lâchez-le. C'est ça qu'elle nous dit aussi. Ouais. Mon message aux gens, là, c'est lâchez-le, Julien Lacroix. Là. Moi, je l'ai rencontré, elle l'a rencontré
cet été
un peu, à la fin d'été. Puis elle a dit, il est plus pareil, là. Il a changé. C'est le gars que j'ai rencontré au départ et de qui je suis tombée amoureuse. Là. Il est là, il est revenu. Donc.
En terminant, il y a le danger avec un balado puis un document comme ça de dire, OK, là, est-ce que je parle? Est-ce que je porte plainte? Est-ce que je dénonce? Est-ce que j'entends des voix qui ont dit, bon, on vous l'avait dit, c'est pas tout vrai, puis il y a beaucoup de vengeance dans certains témoignages.
Du côté de Julien Lacroix, l'impression que moi j'ai eue quand on l'a interviewé, c'est qu'il était pas du tout dans une condition d'attaque. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça se règle. Ce qu'il souhaite, c'est pouvoir rencontrer les personnes qui l'accusent de gestes qu'il aurait posés. Il a rencontré deux de ces femmes-là, Geneviève Morin, son ex-blonde, puis Alice Payet, qui pour ce projet-ci sort de l'anonymat pour raconter, qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Lui, ce qu'il souhaite, c'est les rencontrer, s'excuser s'il y a lieu de s'excuser. En lien avec les gestes qu'il aurait pu poser. Donc, je ne le vois pas, lui, de son côté, comme quelqu'un qui a envie de se venger de ces personnes-là.
Non, mais vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont peut-être hésiter là, à les dénoncer?
Bien, l'idée de ce reportage-là, ce n'était pas de remettre en question ce type d'enquête journalistique-là. On l'a fait, nous, à la presse aussi. Ce n'était pas de démolir non plus l'enquête du Devoir. Mais on pense que c'est important. Ça fait quand même seulement 5 ans, là, ce mouvement, moi aussi, qui a été lancé aux États-Unis. Il y a 5 ans, récemment, on a souligné l'anniversaire. Puis on pense que c'est important de réfléchir, en fait, aux effets, aux impacts, aux conséquences pour les gens. Tu sais, la présomption d'innocence dans le système de justice traditionnel, ça existe encore.
Puis, ça existe pas bien sur les réseaux sociaux,
non,
par exemple.
Non, ça existe pas du tout sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le temps là de poser un regard critique sur ce phénomène-là qui est mondial. Et Julien Lacroix, c'était une façon, un cas de figure, finalement.
Je tiens à préciser que vous avez demandé au Devoir de répondre à vos questions. Ce qui m'a étonné, c'est la réponse, là. C'est-à-dire, on veut voir les questions avant de dire oui ou non. Venant d'un journal, étonnant.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va parler de ce qui se passe à Saint-Constant. Un citoyen qui s'appelle Michel Vachon, qui, depuis des années, est ce qu'on appelle un quirulant. Il y a toujours des gens un peu étranges qui se présentent dans les conseils municipaux, là, qui font des spectacles. Vous avez juste à écouter Infoman, ils ont un segment consacré à ça. Mais il y a des limites à ce qu'on peut endurer, là, que des citoyens soit très, très engagé, que des citoyens fassent des demandes pour avoir de l'information, prennent la parole au conseil municipal, c'est une chose. Mais quand vous commencez à suivre les employés, à bousculer des employés, à harceler des employés, c'est ce que fait, et fait encore, de toute évidence, Michel Vachon, là, il y a des limites. Le problème, c'est évidemment la possibilité d'avoir des recours, puis le temps, l'énergie et l'argent que ça prend pour se battre contre ce citoyen-là qui a décidé que dans la vie, tout ce qu'il faisait, c'est d'écœurer la ville. Jean-Claude Boyer est le maire de Saint-Constant. Monsieur Boyer, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, Michel Vachon, là, votre citoyen, il a commencé quand là, sa croisade contre la ville?
En fait, ça a commencé en 2016. Mais je vous dirais quand même, dans son attitude, là, moi je suis devenu maire en 2013, déjà ses interventions au conseil en 2014, je dirais, parce que novembre 2013, j'ai été élu, 2014-2015, c'était particulier comme intervention. Tu sais, on se disait, mais c'est particulier de faire des interventions comme ça où il y a toujours des jugements sur les décisions. Là, puis,
qu'est-ce qu'il y avait de particulier?
Mais en fait, il voyait le mal dans tout ce qu'on faisait, déjà à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple récent que je peux vous donner. Là, on a des terrains résiduels, des fois, dans les villes, puis des fois, on les met en vente pour des développements domiciliaires. On a mis un terrain en vente il y a quelques temps déjà. Et puis, dans le processus normal, là, puis un promoteur, les promoteurs qui ont fait des offres, puis bon, selon les évaluations et tout ça, un promoteur a remporté l'offre. Donc, ce promoteur-là, on lui vend le terrain selon un nom de promoteur. Là, je n'aimerais pas son nom. Et puis, on passe une résolution là-dessus. Alors, et puis ce promoteur-là revient à nos services ici pour dire, hey, by the way, ce sera pas vraiment ce nom-là. Si j'ai deux compagnies, ça va être le paiement va se faire de mon autre compagnie. Donc, nous, on a dû changer la résolution pour que ça corresponde, en fait. Mais M. Vachon, lui, il prétend qu'on a vendu le terrain deux fois. Donc, alors que c'est pas le cas. Donc, je pourrais vous en nommer comme ça des centaines et des centaines de cas depuis 2014-2015. Mais en 2016, la dérape a commencé encore plus, de façon plus évidente, bien entendu.
Quand vous dites une dérape, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait?
Mais en fait, il intimide les gens, il les harcèle, il les suit. Là, quand je parle des gens, je parle même des citoyens qui là, il ne vient pas aux séances, il est interdit de venir là, jusqu'à maintenant encore. Mais quand il venait, il intimidait par sa présence les gens qui assistaient au conseil. Il intimidait les élus, intimidait les employés, il suit les employés. Mais là, dans les dernières années, il a même fait des voies de fait à l'endroit d'élus et d'employés. Donc, écoutez, ça n'a juste pas de bon sens. C'est une saga complètement interminable. Là.
Quand
c'est,
vous dites intimidé, d'abord, il est grand, il est petit, il a quel âge? Pourriez-vous me le décrire?
C'est une personne à peu près de, je dirais, 6 pieds 2, au-dessus de 200 livres, et puis qui est au début de la soixantaine. Je pense qu'il a 62 ans.
OK. Puis quand
à l'époque, il n'y avait pas ça. Là.
Ouais. Quand vous dites il intimide, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous voir, il vous engueule, il vous envoie des...
Par ses paroles, en fait. OK, par ses paroles. Lorsque j'ai dit qu'il intimide, mais par sa présence, il est intimidé par sa présence, par ses regards, par sa parole, par ses jugements qu'il fait sur nous constamment. Lorsqu'il suit les gens, lorsqu'il se promène à l'entour de l'hôtel de ville, lorsqu'il prend les numéros de plaque des employés, lorsqu'il les suit jusqu'à chez eux. Écoutez, ça finit plus, en fait. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Là. C'est incroyable tout ce qu'on a vécu depuis presque 7 ans bientôt. Là.
Je lisais dans la presse ce matin là,
oui.
Les résultats de l'enquête de Tristan Péloquin. Là, quand vous me parlez de voie de fait, là, il a frappé une employée.
Oui, il s'est rendu chez elle au mois de février.
Attendez, chez elle?
Oui, dans sa rue, là, tout près de chez elle. Maître Laflamme sortait après son travail. Là, et puis, elle promenait son chien, en fait. Et puis, il l'a chargé en vélo. Et puis, Maître Laflamme, pour lui, c'est, écoute, excusez-moi l'expression, mais dans son target, là, au niveau des personnes atteintes, là, ou à atteindre. Là. Donc, c'est incroyable.
C'est la greffière de la ville.
Oui, c'est la greffière de la ville, okay. Exactement. Tout à fait.
Mais là, il était accusé de voie de fait. Je peux pas croire, là, je veux dire...
Michel Vachon a été accusé 3 fois de voie de fait à l'endroit de Mario Perron, de David Lemelin, qui sont des conseillers municipaux, et de Maître Laflamme tout récemment. Et puis, il a fait de la prison à ce niveau-là. Mais, écoutez, on est encore... Présentement, nous, on est en poursuite au civil, au niveau des injonctions. Et puis, c'est pour ça un peu que j'ai écrit au gouvernement, parce que je me dis... On va jusqu'à où, là, avec ça? En fait, puis le système judiciaire se parle pas. Ce qui est fait au civil ne parle pas aux criminels ou vice-versa. Et puis, au niveau des affaires municipales, mais nous, ce qu'on demande, c'est de l'aide des affaires municipales, l'aide financière, parce que c'est quand même des coûts à ce niveau-là pour que les villes soient mieux équipées, en fait, pour faire face à des situations comme celle-là. Là.
Mais lui, il fait ça temps plein, de la façon dont vous m'en parlez?
Il fait ça temps plein, il travaille pas depuis très très longtemps. En fait, moi depuis que je le connais, depuis 2013, cette personne-là ne travaille pas. Là.
Mais il y a des limites, là. Je comprends des gens qui posent des questions, je comprends des gens qui font partie de l'opposition. Mais de là à prendre en filature les employés de la ville, les élus, les suivre dans leur coin, les bousculer.
Non, mais c'est ça, comme vous dites, de poser des questions, c'est pas ça qui est le problème. Puis on a toujours des bonnes séances de conseil, les gens s'expriment et tout ça, mais là, on n'est pas là du tout dans son cas. Là. On est une personne qui, en tout cas, c'est des agissements complètement anormales. On peut pas agir comme ça normalement dans la vie. Là. Puis en fait, il ne comprend rien du tout. Là, présentement, il est déjà en 2 outrages au tribunal pour 10 infractions sur l'injonction permanente qu'il y a eu en 2021. Et puis là, il y a 2 autres outrages au tribunal au mois de janvier à Lando. Ben, en fait, lorsqu'il a attaqué Maître Laflamme, il était sous une injonction permanente de ne pas approcher les élus ni les employés, ne pas leur adresser la parole. Donc, ça n'avait pas empêché d'aller la charger chez elle où elle reste. Là.
Puis là, je comprends qu'il habite pas bien loin de l'hôtel de ville.
Il est à peu près à 400 mètres de l'hôtel de ville.
Mais c'est un climat de terreur.
C'est un climat de terreur. Puis vous comprendrez que nous, en tant qu'employeurs, on se doit d'assurer la sécurité de nos employés et puis des élus et même des citoyens lorsqu'ils pouvaient assister au conseil municipal. Donc et puis comme je dis souvent, chacun dans la vie, tout le monde a le droit à sa vie démocratique, va poser des questions. Puis c'est pas ça l'enjeu là-dedans, mais pas du tout. Là. C'est ça, son comportement qui est inacceptable. Puis là, ça nous occasionne des procédures. Tout le monde est épuisé ici, en fait, de toutes ces procédures-là. On passe encore à la cour là, à 9h30 ce matin là, pour prolonger une injonction provisoire à son égard.
Mais je vais vous dire, puis vous l'avez sans doute fait, ou ça vaut peut-être même pas la peine, il n'y a pas quelqu'un de son entourage, il n'y a pas moyen de le raisonner, de dire, attends un peu, on va s'asseoir, là, puis voici comment on peut regarder ça, puis de façon calme, sans créer ce climat?
Mais c'est ça la problématique, c'est que cette personne-là, elle est seule. Donc, de ce que je connais de cette personne-là, il n'y a pas personne qui... Elle reste seule. Je pense que c'est une personne qui est divorcée depuis 1999, je pense. Et puis, elle habite seule, elle n'a pas d'enfant, semble pas avoir vraiment d'amis là ou de parenté qui s'en occupe. Donc, il n'y a vraiment personne pour la raisonner. Puis, vous avez raison. Des fois, dans une famille, quand quelqu'un dérape un peu, lorsqu'elle est entourée, puis on peut lui dire, mais je pense que tu vas un peu trop loin, puis on peut la ramener un peu, mais cette personne-là n'a pas ces gens-là.
En conclusion, vous souhaitez quoi?
En fait, en conclusion, on souhaite que le gouvernement donne des moyens à la Cour pour qu'elle puisse agir de façon plus rapide là-dedans, parce qu'on est toujours en train de recommencer des processus complets du début. Il n'y a jamais de lien qui se fait avec ce qui a été fait, les jugements passés. On demande au gouvernement d'aider les villes qui sont aux prises avec ce genre de situation-là. Et puis qu'on nous donne même des moyens d'agir sans qu'on passe à la cour quand on arrive à des situations comme ça, qu'on puisse avoir les moyens d'agir directement là-dessus. Là. Et puis qu'on donne des moyens aussi aux policiers, de mieux équiper les policiers, faire face avec des personnes comme ça aussi. Donc c'est un peu un cri du cœur qu'on fait aujourd'hui. Et puis j'ai interpellé le gouvernement parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête en quelque part. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a recommencé un processus judiciaire pour avoir une injonction permanente pour qu'il soit banni à vie, en fait, parce que cette personne-là ne comprend pas. Si elle comprenait, puis elle comprenait ses torts, oui, j'ai mal agi, mais non, jamais. Elle se justifie dans toutes ses actions, donc c'est inacceptable.
Merci, M. Boyer. Bonne journée.
Merci, M. Arcand. Bonne journée à vous.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, on va parler avec Alain tout de suite de la Coupe du monde de soccer.
Mais pas pour parler de soccer.
Non, pas vraiment les résultats au Qatar, parce qu'encore une fois, il y a une controverse autour d'un gros commanditaire qui est Budweiser.
Oui, on savait que l'alcool allait être un sujet assez sensible à cette Coupe du monde. Au Qatar, l'alcool, la vente d'alcool, la consommation, c'est extrêmement contrôlé. Déjà, on avait annoncé à Budweiser qu'il avait installé des points de vente tout près des entrées dans les stades. On leur avait dit, vous allez vous éloigner parce que officiellement, c'était une question de sécurité. Alors, on les envoyait dans des zones spécifiques, mais loin des points d'entrée au stade. Et là, on apprend aujourd'hui, ça a été confirmé par la FIFA, que non seulement on les a éloignés, mais ils ne pourront vendre que de la bière sans alcool. Pour en parler, on va aller retrouver Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour.
Bonjour.
Bon, on savait que l'alcool, ça allait être un point sensible dans cette Coupe du monde. Mais là, on C'est un commanditaire important. Faut rappeler que Budweiser paye 75 millions de dollars pour être associé à cette Coupe du Monde. Et là, on vient de les tasser pas à peu près, là.
Effectivement, ben c'est un dossier qui, pour la compagnie, dès le départ, a été extraordinairement complexe. Un, évidemment, au moment où on annonce tout ça, que le Qatar aura la Coupe du Monde de 2022, on leur dit assez rapidement qu'il ne sera pas possible de vendre de l'alcool. Par la suite, on dit oui, il sera possible de vendre de l'alcool. Il y a 6 ou 7 jours, je vous aurais dit, nous pourrons en vendre, mais seulement avant le match, 3 heures avant le match. 1 heure après le match, dans des zones évidemment prédéfinies et jamais dans l'enceinte du stade comme tel. Et là, ce matin, au fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura tout simplement pas de vente d'alcool. Et pour Budweiser, qui a mis au point une campagne publicitaire dans 70 pays à travers le monde, parce qu'on assoit évidemment ces commandites-là toujours avec énormément de dollars publicitaires, on a signé des vedettes aussi. Et sur le plan de la logistique, c'est que la bière est déjà rendue. C'est ça qu'il faut évidemment comprendre, c'est que on livre pas la bière 2 jours avant l'événement. Et dans ce cas-ci, ce qu'on a été obligé de faire, c'est qu'il n'y a pas de brasseur au Qatar. Alors, on a mis la bière dans des bateaux qu'on a envoyés donc au Qatar. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, on les a mis dans les réfrigérateurs, les congélateurs habituels. Mais ce qu'on s'est aperçu très rapidement, c'est que la chaleur est tellement importante qu'ils ont dû acheter de nouveaux réfrigérateurs. Donc, dès le départ là, et jusqu'à la fin pour Budweiser, ça aura été un dossier extraordinairement complexe.
Bon, et qu'est-ce que ça nous dit de la FIFA là-dedans? Elle est en train de perdre le contrôle de l'organisation de cette Coupe du Monde, là.
Oui, moi, je suis convaincu, vous parliez du 75 millions de Budweiser, ils payeront pas ça cette fois-ci. Je suis certain de ça. Et évidemment, il y a probablement d'autres annonceurs aussi qui vont ruer dans les brancards. D'ailleurs, déjà, les rumeurs qu'on a en termes de la visite ou les touristes, comme on les appelle communément, semble-t-il que c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur. Il reste encore des billets de disponibles au moment où on se parle. On a vendu quand même, je le précise, 2,9 millions de billets, ce qui est pas si mal. Mais sur ce plan-là, c'est un peu dommage parce qu'en même temps, on se disait, on va au Moyen-Orient, c'est la première fois. Je pense qu'il fallait qu'éventuellement la FIFA aille jouer là, comme on est allé en Afrique du Sud il y a plusieurs années, comme on est allé aux États-Unis aussi il y a plusieurs années. Mais du côté de la visite, j'en parlais il y a 2 instants, aux États-Unis, on avait accueilli 3,5 millions de personnes en 1994. Cette année, on pense, dans le meilleur des cas, qu'on va accueillir à peu près 1,5 million de personnes. Donc, sur le plan strictement de l'événement comme tel physique, là, visiblement, il y a des limites, puis on a peut-être vu, certains auditeurs ont peut-être vu depuis 2 jours ce journaliste qui a été interrompu en train de faire un topo au Qatar. Bon, évidemment, assez rapidement, les autorités locales se sont excusées de ça, mais donc sur ce plan-là, c'est pas l'idéal. Maintenant, sur le plan des cotes d'écoute, on annonce probablement la Coupe du Monde la plus regardée de tous les temps. On parle de 5 milliards de téléspectateurs au total. Juste pour comparer avec les Jeux olympiques à Beijing, il y avait 2,1 milliards de téléspectateurs. Donc, c'est du simple au double facile. Et dans le cas du Super Bowl, du match du Super Bowl, je rappelle toujours, c'est souvent notre point de contact, de comparaison ici en Amérique du Nord, c'est 100 millions de personnes. Donc, le match final de la Coupe du Monde devrait cette année générer 1 milliard de téléspectateurs. Donc, je parle juste d'un match, le match, la grande finale. Alors, c'est 100 millions pour le Super Bowl, c'est 1 milliard pour la Coupe du Monde. Donc, on est vraiment dans des eaux là complètement différentes. Et ça explique pourquoi un Budweiser dit on est normalement prêt à payer 75 millions de dollars. Ils sont là depuis 35 ans. McDonald's, qui est là également, Coca-Cola qui paye 50 millions, Visa qui paye 85 millions, et tenez-vous bien, pour fournir le ballon, Adidas paye pour 7 Coupes du Monde 100 millions de dollars. Et malgré ça, ça n'empêche pas Nike d'être celui qui sera dominant sur le terrain, comprenons-nous bien, les chaussures de sport. Parce que la vraie bataille des 4 prochaines semaines, le vrai tournoi, là, c'est le tournoi des chaussures de sport. Et dans le cas de Nike, on a réussi à signer 13 équipes contre 7 équipes pour Adidas. Alors, je rappelle que Adidas est le commanditaire officiel, mais sur leur terrain, si jamais vous ne savez pas qu'Adidas est le commanditaire officiel, vous allez probablement penser que c'est plutôt Nike.
Et là, ce qui est paradoxal, quoique ça reste à confirmer, semble-t-il, ceux qui auront accès aux loges à l'intérieur des stades, c'est-à-dire une clientèle triée sur le volet, les gens de la FIFA ou encore des invités VIP, eux auront droit au champagne et aux vins les plus recherchés.
Ben, l'information là-dessus, effectivement, elle est un peu confuse, c'est-à-dire qu'en fonction des sources, on dit oui et on dit non. Mais si jamais il faudrait que ce soit oui, donc que vous avez raison, que c'est ça qui va se passer, ça n'aurait aucun sens. Et là, ce serait extrêmement risqué du côté de la FIFA qui, je le rappelle, sur le plan de l'image, de la réputation, du capital de sympathie, ces temps-ci, ne traverse certainement pas sa meilleure séquence. Je m'en fargeais d'ailleurs même récemment dans une campagne de publicité dans laquelle on disait Russie en 2018, Qatar en 2022, est-ce que la prochaine Coupe du Monde, ce sera en Corée du Nord? Donc, c'est le genre de clin d'œil qu'on fait actuellement. Et pour ceux qui se sont peut-être enfargés dans un documentaire, mais absolument extraordinaire, qui est offert actuellement sur Netflix, en 4 épisodes, on explique comme ça l'évolution de la FIFA à travers le temps. Et ce qui est dommage, c'est que généralement, l'argent ne se rend jamais aux fédérations et comprendre ici la construction de stades, la construction de terrains aussi pour les jeunes. Et c'est ça qui est absolument et fondamentalement malheureux, parce que ça nous rappelle que malgré toute la controverse entourant la FIFA et le choix parfois des destinations, ça reste le sport le plus écouté, le plus regardé au monde. Là. Le football, la Ligue, la NFL, à côté de ça, là, c'est du local. Et le hockey, ça en est presque aussi. Alors, ce qui sauve le hockey, c'est l'Europe, en particulier la Scandinavie. Mais sinon, on est dans des eaux complètement différentes. La cote d'écoute moyenne de chacun des 64 matchs qui s'en viennent là, dans le prochain mois, la cote d'écoute moyenne, c'est 191 millions de téléspectateurs. En d'autres mots, à chaque match, vous avez 2 Super Bowls. Je sais pas si vous voyez, là. Ouais. 2 Super Bowls. Et ça commence dimanche, évidemment, matin.
Merci beaucoup, M. Dupont.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Nous sommes choyés ce matin et vous le serez à votre tour parce que nous avons de la belle visite en studio. Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu est avec nous, s'il vous plaît. Applaudissements quand même.
Oh, non, c'est trop gentil.
Parce que c'est un événement important, c'est le lancement de l'album Top Minou.
Oui, monsieur.
Claude, bonjour.
Bon matin, monsieur Finfin.
Top Minou, c'est venu comment ce concept et cette idée-là?
C'est une expression. Hein. Être Top Minou, c'est quand tout va vraiment bien. T'sais, quand tu te sens extra bien, t'es Top Minou. Il arrive une bonne chose, un bel événement, tu dis « Ah, ça, c'est Top Minou. Un bel addon, ça, c'est Top Minou. » Quand tu te sens bien, t'as mal nulle part, il fait beau soleil, pas trop chaud, pas trop frais, t'es Top Minou. C'est ça être Top Minou, Paul.
Je vais retenir l'expression.
Ben oui, il faut s'en servir.
Alors, parle-nous un peu comment l'album a été conçu, comment vous avez travaillé ça.
On s'est donné pour la première fois une pause d'un an pour faire un album. D'habitude, on le faisait comme entre les shows, en tournée un peu. On se prenait du temps de studio, en sandwich, tout ça. Puis cette fois-là, on s'est dit, on prend un an, on arrête de faire des shows. On fait juste l'album. Fait qu'on s'est donné un 9 mois, pas mal de studio, de préparation, tout ça. Puis, comme je disais, hors onde, ben la tournée était déjà pas mal programmée. T'sais, on savait qu'on avait déjà beaucoup de dates qui s'en venaient, qui commencent en fin janvier 2023. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on se fait comme tune pour avoir un show le fun? Fait que c'est comme si on s'est bâti un coffre à outils avec les outils qu'on avait besoin pour aller donner un show efficace et coup de pied dans la porte.
Mais vous aviez déjà, disons, un répertoire avec des classiques, là.
Ben ça, c'est un beau luxe parce que quand tu sors un premier album, t'as juste les tunes du premier album, fait que t'as pas le choix de piger juste là-dedans. Puis là, avec 4 albums, ben là, on va pouvoir monter un show avec tout le nouvel album, Top Minou, puis piger dans les nananes des autres corps. Fait que c'est un beau luxe.
La chanson que tu vas nous présenter ce matin, live, ça s'appelle Moll Twist Vanille Vanille.
Oui, monsieur.
Est-ce qu'on peut l'écouter?
Ah, ça se pourrait.
Vas-y donc.
Ah oui, donc. Quand la vie me pogne pis que je m'en vais me frencher une molle en famille. Au tableau des nouveautés, y'a jamais rien qui me titille. Même quand j'ai le temps de me remettre en question, quand je suis dans la file,
Je n'hésite jamais, puis je prends toujours une molle twist vanille, vanille.
Ah ouais, donc?
Molle, 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 molle twist vanille, vanille. Molle, 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 molle twist vanille, vanille. Je me souviens que plus jeune, je jouais au soccer à Victoriaville. Puis qu'après les games, on allait toujours à la crémière sur le bras de la ligue. Tout le monde dans mon équipe prenait toujours de petites barbotines. Déjà avec assurance, moi je commandais une molle twist vanille vanille. Oh, 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 molle, 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 molle twist vanille vanille. Molle, 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 molle twist vanille vanille. Oh, parfum de fruits, oh, confiserie, ouais, pâte à biscuits. Popcorn au beurre, pétales de fleurs, non, je veux rien savoir. Non, non, je veux rien savoir. J'avoue que je suis du genre conservateur au niveau des papiers. Vous pourrez me juger autant que vous voudrez, mais c'est moi qui décide. Y auront beau nous inventer mille et une nouvelles saveurs exotiques, moi c'est un dossier réglé, je vais toujours prendre une molle twist vanille vanille. Oh, oh yeah! Molle, 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 molle twist vanille vanille. Molle, 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 molle twist vanille vanille. Encore! Molle, 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 molle twist vanille vanille. Mal, 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 twist, vanille, vanille. Vanille, vanille. Vanille, vanille. Mal, 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 mal.
Bravo.
Merci.
Yes.
Merci.
Hey, incroyable.
La porte s'ouvre.
Monsieur Ferrandez. Ah, non.
Ah, c'est son fils.
C'est ton fils?
Non, c'est ma mère.
Ah.
Le fils à Maryse, bon matin.
Très bien, très bien, très bien. Un spectateur s'ajoute.
Ben oui.
C'est parfait. Dis donc, est-ce qu'on peut te faire une demande spéciale?
Ah oui, donc?
Nous autres, quand il se met à faire froid un peu à l'extérieur, on a comme un réflexe de puiser dans votre répertoire puis de dire, tu sais, c'est un petit matin froid.
Friscounet.
Ça pourrait inspirer lequel de vos succès, tu penses?
Attends, je cherche, là.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'on prend comme tune?
T'en voudrais un petit extrait, c'est
mettons.
Ça? Ah oui, donc.
Okay.
J'aurais une question pour toi, Paul.
Oui, vas-y.
Hey! Fais-tu frais?
Oui.
On est-tu bien chaud quand on wété? Oui. Hey! Y a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton wété?
Super.
Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud, chaud, je m'installe debout devant ma B-window. Savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner.
Ah oui, donc?
Je lui demandais comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu frais? On est-tu bien, j'ai sans coton wété? Hey, y a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton wété?
Bravo. Mais ce qui est fantastique, quand il va faire froid,
oui,
on a coton ouaté. Puis quand il va faire chaud, on a molle, twist, vanille, vanille.
Et voilà.
On est parfait pour
c'est
les
c'est comme un pneu 4 saisons.
Exact. Pareil.
Et sur l'album, il y a aussi souper fondu.
Ah oui.
Quand même. Et aussi coco de cuir.
Coco de cuir?
Oui, coco de cuir.
Est-ce qu'on peut écouter?
Besoin de sprain, non, de me replacer les côtes, non, non. De songer, me faire faire une greffe, non, non. Car j'assume mon coco de cuir. Plus besoin de shampoing, non, non. De rendez-vous au salon, non, non. De chercher des solutions, non, non. Car j'assume mon coco de cuir.
Tout ça sera disponible demain?
Oui, oui, top minou demain, puis la tournée commence fin janvier.
Claude, merci beaucoup d'être venu ce
un
matin.
Un plaisir, merci à vous.
Claude Cobra, bleu, James Bleu. On va s'arrêter pour la pause.
Vous écoutez Balado du dimanche. Une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.